Merci et rendez-vous pour le journal au complet dans une petite demi-heure. Tout de suite, c'est votre grande table du 1er janvier, la première de l'année. Bonne année. Bonjour à tous. Comment les transformations liées aux nouvelles technologies et aux progrès de l'intelligence artificielle nous amènent-elles à repenser des questions aussi universelles que la mémoire, le temps ou encore le travail? Pour ouvrir l'année, Guerre et paix, première aujourd'hui d'une série de 4 émissions sur l'ubérisation du monde. L'armée du futur sera-t-elle une armée sans soldats? Invitée la philosophe Marie-Des-Neiges Ruffaut, auteure de Itinéraire d'un robot tueur. Mais d'abord, j'ai consacré l'essentiel de ma vie à ne pas être, écrit-il sous l'un de ses dessins. Chanteur, guitariste, Leonard Cohen était d'abord poète. Son premier recueil de poésie, paru en 1956, The Flame, restera comme le dernier qu'il ait composé, publié cet automne au Seuil. Et traduit par Nicolas Richard, notre invité aujourd'hui, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
How to speak poetry. Do not act out words, never act out words. Never try to leave the floor when you talk about flying. Never close your eyes and jerk your head to one side when you talk about death. Do not fix your burning eyes on me when you speak about love. If you want to impress me when you speak about love, put your hand in your pocket or under your dress and play with yourself.
Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your poem. I used to think I was some kind of gypsy boy. Before I let you take me home. Now so long, Marianne. It's time we began to lie and cry and cry and laugh about it all.
Bonjour Nicolas Richard.
Bonjour.
Aujourd'hui, c'est vous la voix de Leonard Cohen, puisque vous êtes son traducteur dans ce livre qui vient de paraître, The Flame. Nick Cave, Woody Guthrie, Patti Smith, Bruce Springsteen et maintenant Leonard Cohen. Quand on se penche sur la liste des auteurs que vous avez traduits, on se dit que vous êtes un traducteur atypique qui ne distinguait pas littérature majeure et art mineur.
Non, je ne distingue pas. C'est Art Spiegelman qui dit lui aussi qu'il n'y a pas de raison de distinguer. Il y a de l'art soi-disant majeur très chiant et de l'art mineur splendide.
C'est le cas ici.
Alors ça, c'est The Flame, c'est un drôle de document. Je crois que c'est Richard Brautigan qui disait dans l'introduction d'un de ses poèmes « La vie est inégale ». C'était l'introduction de ses romans japonais. Il disait « La vie est inégale » et donc je vous livre mes poèmes dans leur entièreté, parce que, voilà, certains seront géniaux, certains le seront moins. Donc là, The Flame, c'est une sorte de fourre-tout avec des choses géniales et des choses mystérieuses.
Nicolas Richard, vous n'avez pas été, vous, surpris, on imagine, le jour où l'Académie du Nobel de littérature a choisi de consacrer le chanteur, compositeur et poète Bob Dylan pour avoir, je cite, créé dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine de nouveaux modes d'expression poétique. Est-ce que Leonard Cohen le méritait tout autant, ce Nobel ?
Oh ben, je pense qu'il y a vraiment des dizaines de songwriters qui le méritent. Je me souviens du discours prononcé à distance par Bob Dylan quand il a reçu ce prix Nobel. Il a envoyé son discours quelques minutes avant la date limite et il commence en disant « Je sais pas trop si les chansons que je fais sont de la littérature, on va essayer de réfléchir à ça. » Et finalement, je retrouve chez Leonard Cohen un écho de cette interrogation un peu humoristique. On était là dans les années 60 et puis finalement on est toujours là et bah oui, ce qu'on fait c'est la littérature.
Et d'où ça leur vient cette passion, ce goût pour la littérature, à tous ces chanteurs, compositeurs pour certains, instrumentistes pour d'autres, de Patti Smith à Bob Dylan jusqu'à Leonard Cohen. Le jury du Nobel évoquait cette longue tradition qui remonte à William Blake. Est-ce qu'ils s'inscrivent tous dans ce sillon-là pour vous ?
Alors là, je me garderai bien de faire des généralités, mais il faut rappeler que Leonard Cohen commence dès 1957 à publier un recueil de poésie. Hein. Donc lui se situe dans une grande filiation d'écriture poétique. Et c'est finalement que 10 ans plus tard, en 67, qu'il va sortir son premier album.
Ce sont ces voix de l'Amérique qui vous intéressent ?
Non, en fait, dans ce qui m'intéresse en traduction, et même en tant que lecteur, le terreau de départ n'est pas très important en fait. Là, j'ai été fasciné par un auteur irlandais qui s'appelle Mac McCormack, dont j'ai traduit un roman qui va sortir bientôt, là. Mais aussi bien, ça peut être un auteur du sud des États-Unis, ça peut être Adam Thirlwell, qui, lui, est britannique. Donc, le pays m'importe peu. En revanche, c'est la langue. Le vrai pays de ces personnes, c'est la langue dans laquelle qu'ils habitent et qu'ils arrivent à émulsionner, en fait.
Mais comment on en arrive, j'y reviens, sur votre bibliographie, à être le traducteur à la fois de Woody Allen pour L'erreur est humaine, de David Lynch pour Mon histoire vraie, de Nick Cave pour Mort de Bunny Munro, de Woody Guthrie pour La maison de terre, on l'évoquait tout à l'heure pour Patti Smith ou d'autres. Comment on en arrive à être le traducteur de ces voix-là qui sont très singulières dans le paysage littéraire américain aussi?
Comment on arrive là, c'est tout simplement que je suis depuis tout petit un lecteur et que à partir du moment où je commence à être traducteur, il y a presque 25 ans maintenant, j'ai la chance de commencer à proposer moi-même des textes à traduire. Et ce sont les premiers poèmes de Richard Brautigan. Et ensuite, très rapidement, je traduis pour la série noire, donc le roman policier. Et finalement, j'ai eu la chance, si je regarde un peu en arrière, de traduire presque exclusivement, voire à 100% des textes qui m'ont plu. Donc après, je fais partie de ces traducteurs chanceux qui refusent de traduire les textes qu'ils n'ont pas envie de traduire. Donc du coup, quand je me mets au travail sur un texte, qu'il soit irlandais, britannique ou américain, c'est des textes qui me plaisent énormément et sur lesquels je travaille avec beaucoup de joie.
Et lui, Leonard Cohen, quel artiste pensait-il être? Quel écrivain pensait-il être? Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait ou le poème dans son entièreté, celui intitulé « Kanye West n'est pas Picasso ».«
Kanye West n'est pas Picasso. C'est moi, Picasso. » Kanye West n'est pas Edison. C'est moi, Edison. Je suis Tesla. Jay-Z n'est pas le Dylan de quoi que ce soit. C'est moi, le Dylan de quoi que ce soit. Je suis le Kanye West de Kanye West. Le Kanye West du grand glissement à la con de la culture bidon. D'une boutique à l'autre, je suis Tesla. Je suis la bobine. La bobine qui a rendu l'électricité douce comme un lit. Je suis les Kanye West que Kanye West croit être quand il te vire de scène. Je suis le vrai Kanye West. Je ne sors plus trop. Je ne suis jamais beaucoup sorti. Je ne reviens à la vie qu'après une guerre. Et elle n'a pas encore eu lieu.
Qu'est-ce qu'il nous dit de lui, ce poème ?
Il y a un côté provoque, truculent. C'est-à-dire que 2015, il est quand même très proche de la fin de sa vie. Et manifestement, ça fait écho à une de ces batailles comme on en trouve tout le temps sur les scènes du monde entier quand il y a plusieurs artistes qui se succèdent. Ça, je le suppose. Et c'est l'art de partir peut-être, là je suis obligé de faire des suppositions, mais c'est l'art de partir sans doute d'une brouille à chaud pour en faire une sorte de poème un peu branque, un peu déséquilibré et très provocateur.
Et pourtant, ils incarnent l'un et l'autre deux époques, deux styles extrêmement différents. Sur sa conception de l'art, il s'auto-répond, et vous avez attiré mon attention là-dessus, presque dans un autre poème, « S'il n'y avait pas de tableau ». Je commence et vous prenez la suite. S'il n'y avait pas de tableau dans le monde, les miens seraient très importants. Pareil pour mes chansons. Comme ce n'est pas le cas, hâtons-nous de prendre place dans la file d'attente, tout là-bas, en bout de queue. Parfois, je voyais une femme dans un magasin, humiliée dans l'éclat technicolore. Je tâchais de l'établir dans des circonstances plus heureuses. parfois un homme, à vous.
Parfois des personnes vivantes posées pour moi. Puis-je leur dire à nouveau « Merci d'être venu dans ma chambre ». J'aimais aussi les objets sur la table, comme les bougeoirs et les cendriers. Et la table elle-même. Grâce à une glace sur mon bureau, très tôt le matin, j'ai recopié des centaines d'autoportraits qui me rappelaient une chose ou une autre. Le curateur a intitulé cette exposition « Drawn to Words ». Moi, j'intitule mon travail « Décoration acceptable ».«
Drawn to Words », vous n'avez pas traduit, c'est resté tel quel et ça signifie « attiré par les mots ».
Ou bien « dessiné en mots » éventuellement. Je ne l'ai pas traduit parce que l'anglais entend vraiment les deux sens éventuellement.
Nicolas Richard, The Flame rassemble une majorité de poèmes et aussi des paroles de chansons, des extraits de carnets, des dessins, des autoportraits. Il y en avait déjà d'ailleurs dans son livre du désir paru en 2008. Et puis aussi un discours prononcé lors d'une remise de prix et même des bouts de conversation privée. La construction du recueil et la sélection des poèmes, c'est lui qui les avait pensés en amont. Est-ce que pour vous, ça forme un tout ? Est-ce qu'il y a une cohérence à travers tous ces morceaux, ces fragments ?
Oui, effectivement, c'est intéressant de se pencher sur la construction de ce texte parce que j'en parlais avec Sylvie Simmons, qui est sa biographe, qui, elle, a eu accès à tous ces carnets. Il y a des dizaines et des dizaines de carnets. Et ce qui est assez touchant et ce qui, effectivement, en fait un tout cohérent, c'est que Leonard Cohen a retravaillé les derniers mois de sa vie sur ces fragments. Donc, en fait, il porte une sorte de patine, il reprend des instantanés et on a l'impression qu'il est sur le point de franchir le miroir et il se dit, voilà, ce sont ces bribes que je vais semer au vent dès que j'aurai disparu. Et donc il y a de l'ironie et il y a dans énormément de poèmes, bien sûr, cette espèce de dynamique de séducteur, le désir bouillant et la proximité de la mort. Et une réflexion sempiternelle sur vieillir. Moi, il me fait parfois penser au Philip Roth des derniers romans, c'est-à-dire documenter avec du panache, avec de l'ironie, le désir masculin, en tout cas, qui, comme la flamme, ne s'éteint pas.
Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nanny, hey, nanny. I'm ready, my lord.
Parmi les chansons traduites, il y a « You Want It Darker » que l'on retrouve dans son dernier album éponyme, sombre et prophétique. C'est comme une prière, il y a vraiment un rythme des phrases presque psalmodié. Nicolas Richard, sur le rythme qu'il a pu impulser dedans, vous y entendez quoi ?
On a comme avec beaucoup de grands auteurs, on a parfois l'impression que des formes très concentré, arrive à résumer parfois pratiquement la totalité de l'œuvre. Ça me fait ça parfois pour certaines phrases de Thomas Pynchon ou même on parlait de Woody Guthrie. C'est assez formidable quand ça arrive. C'était cet aspect d'ultra concentration du propos en quelques mots. Là, on peut entendre peut-être dans le phrasé à la fois une une inscription dans la tradition zen. Et puis peut-être ce que Leonard Cohen appelait lui-même les croyances juives. Il répondait à Allen Ginsberg en disant « Je crois pas qu'il y ait incompatibilité entre la tradition zen et les croyances juives. » Et on sent que c'est son univers, même si, une fois encore, il met beaucoup de distance et toujours une sorte d'ironie qui fait qu'on, bien sûr, on sait jamais où il se situe précisément par rapport à ça.
La religion, les professeurs et les femmes, la drogue, la route, la célébrité et l'argent, rien ne m'offre autant de satisfaction ni ne procure autant de soulagement à mes souffrances que le fait de noircir des pages, d'écrire. Ça, c'est Leonard Cohen qui le disait, cité par son fils Adam Cohen dans l'avant-propos de The Flame. Ça montre à quel point l'écriture était existentielle pour lui, hein, la place qu'elle prenait dans sa vie, presque une place réparatrice. Parce que Cohen était tout, sauf un homme apaisé, cette folie, ses hauts et ses bas, on les retrouve un peu tels quels hein, dans la biographie autorisé que lui a consacré Sylvie Simons, que vous citiez, I Am Your Man, la vie de Leonard Cohen, qui est paru cette année à l'échappée. Alors, par quoi est-il passé? Par quoi a-t-il été marqué? Qu'est-ce que vous retrouvez de ses traces dans ce livre, dans ses poèmes, ce recueil?
J'en discutais justement avec Sylvie Simons là il y a quelque temps. Elle a fait un travail de fourmi. Elle est allée en particulier rechercher des feuilles de présence des musiciens en studio. Et on écoutait tout à l'heure So Long Marianne. Et elle faisait remarquer que par quoi il est passé Leonard Cohen. Bien souvent, il semble que pour eux, qu'une histoire amoureuse devienne matériau, on dirait qu'il faut qu'elle soit terminée. Et donc, en fouillant dans ces documents feuilles de présence en studio, elle a vu la première version, le premier titre de So Long Marianne, qui était Go On Marianne. Et son hypothèse, c'est que il a fallu que l'affaire, l'histoire amoureuse avec Marianne soit achevée pour que la chanson existe.
Alors, pour quelle femme ou à quelle femme adressait-il ce poème, ces quelques notes jetées qui s'appellent La vérité moins 7%? Il écrit « Il t'a juste embrassé sur la joue et il t'a juste touché la main. Tu dis qu'il ne s'est rien passé et je ne vais pas contester ton histoire. Ça fait un sacré gros paquet de roses que « Il ne s'est rien passé » à envoyer. Mais je te remercie de m'avoir dit la vérité moins 7%. » On sait à qui ce poème était destiné?
Alors moi, je ne le sais pas. En revanche, ce qui est assez amusant, c'est que Leonard Cohen a eu une phase où il était totalement fasciné par Richard Brautigan, à tel point qu'il allait à un moment donné dans un café, pendant 2 semaines, il allait dans un café à San Francisco dans l'espoir de le rencontrer, mais il ne l'a jamais rencontré. Et, enfin, en tout cas, à cette période-là. Et je suis retombé là en venant sur un poème de Brautigan qui semble répondre presque à celui que vous venez de lire, qui est très très bref, qui est sous forme haïku, qui s'intitule 15%. Donc 2 fois plus 1. Et le poème 15% est comme ça. Elle essaie de tirer des choses des hommes qu'elle n'arrive pas à avoir, car elle n'est pas 15% plus jolie. Donc voilà, il y a aussi peut-être à entendre l'œuvre de Leonard Cohen comme aussi quelque chose de l'air du temps qui circule. Je ne sais pas, il n'y a pas de question d'antériorité. On sent qu'à un moment donné, il capte quelque chose de l'air du temps.
Et en miroir, en écho à d'autres voix qui lui étaient chères. Dans le texte, Leonard Cohen, c'est un mélange unique de sensualité et de spiritualité, une interrogation permanente, vous l'évoquez, entre la vie, la vraie vie, la vérité et la mort. Quelle tonalité de ces poèmes réunis dans ce livre. Je vous propose qu'on l'écoute parler, lui, de sa perception du monde qui l'entoure.
Il n'y a que la lumière, mais les gens regardent par la lumière. Il n'y a que la lumière. La lumière est la base de tout. Et nous sommes noyés dans la lumière, mais avec des lunettes noires. C'est toujours la lumière, ce n'est que la lumière. C'est nous qui inventons une idée de l'ombre, de ténèbres.
Voilà, c'est ça, Leonard Cohen. Aussi, nous sommes noyés dans la lumière avec des lunettes noires, une certaine idée du clair-obscur qu'on l'on retrouve dans ce recueil de poèmes, Nicolas Richard.
Oui, là on entend dans sa voix en plus, on entend vraiment quelque chose de biblique. C'est amusant de quelle manière il jongle avec ce matériau. C'est parfois presque du détournement. On pourrait probablement aller puiser dans les vers de la Bible que lui-même a détournés quand il fait des interventions de ce type.
Beaucoup d'humour noir, beaucoup d'autodérision, que l'on retrouve aussi dans ses dessins, dans une série d'autoportraits un peu ironiques, pas toujours flatteurs, qu'il publie et qu'il avait choisi pour ce recueil The Flame. On peut regarder par exemple celui, page 51, il y a un dessin intitulé « Le moi moyen hébété ». En dessous de cet autoportrait, il écrit « Le moi moyen hébété, le moi interne est clair et ne doute pas, le moi externe a confiance en lui et fonctionne très bien. Je vous montre le moi moyen hébété. » C'est celui-là, c'est cette part de lui-même qu'il a choisi de montrer.
Alors là, c'est amusant parce que il se défiait vraiment de la psychanalyse et il épousait pas du tout
le
théorie
et le surmoi.
Du ça, du moi et du surmoi. En revanche, manifestement, d'après les témoins, il croyait beaucoup plus en l'alcool et en la drogue, ce qui le rend immédiatement sympathique. Mais effectivement, tous ces dessins avec ces légendes, souvent truculentes, alimente cette question du moi, de l'image qu'il veut donner, de la notoriété, de ce qu'il va en faire, de cette image. Je ne sais plus exactement où dans le livre, il explique qu'il craint de, avec le temps qui passe et la mort qui se profile à l'horizon, il craint de laisser une image qui est de lui, qui est à l'opposé de ce qu'il voulait être. Et ce qui est très beau dans The Flame, quand on se laisse bercer comme ça, et même quand on lit un petit peu au hasard, c'est qu'on a l'impression qu'il est en terre de poésie. Beaucoup de poèmes ne sont pas datés, donc c'est ces instants en suspension comme ça. Et c'est un peu le paradoxe du poète qui veut être hors du temps, qui essaye d'attraper la beauté et qui en même temps a une vie publique. Et il me semble que dans ces fragments, on entend ce déchirement, cet écartèlement entre vivre en poésie et puis et l'incarner en fait.
On va écouter Leonard Cohen réciter l'un de ses poèmes en anglais, Listen to the Hummingbird, ce qui signifie écoute le colibri, poème que vous avez traduit et que l'on retrouve dans ce recueil The Flame, Nicolas Richard. Écoutez.
Listen to the hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird, don't listen to me. Listen to the butterfly whose days but number three. Listen to the butterfly, don't listen to me. Listen to the mind of God, which doesn't need to be. Listen to the mind of God, don't listen to me.
Et traduit par vos soins, Nicolas Richard.
Écoute le colibri. Écoute le colibri dont tu ne peux voir les ailes. Écoute le colibri, ne m'écoute pas. Écoute le papillon qui ne vit que 3 jours. Écoute le papillon, ne m'écoute pas. Écoute le responsable qui scrute ta pièce d'identité. Écoute le responsable, ne m'écoute pas. Écoute le cœur souverain renonçant à sa souveraineté. Écoute le cœur souverain, ne m'écoute pas. Écoute l'Esprit de Dieu qui n'a pas besoin d'être. Écoute l'Esprit de Dieu, ne m'écoute pas. Là, je pourrais peut-être faire en préambule une remarque sur la traduction, parce que donc The Flame est en version bilingue. Donc pour moi, c'est assez rare de me retrouver dans cette configuration. Et je trouve ça vraiment très intéressant pour le lecteur, dans la mesure où...
Rare parce que vous ne pouvez pas tricher, en fait.
Non, mais c'est, je trouve ça vraiment très, très bien, parce que du coup, le lecteur est invité. Moi, c'est comme ça que je conçois mon travail. Le lecteur est invité à lire avant tout et idéalement exclusivement la version anglaise et à utiliser ma version française comme une sorte de boîte à outils ou de sac dans lequel on peut aller vérifier. Et je pense au travail qu'a fait André Markovitch sur Ombre de Chine. Il a quand même traduit des poèmes chinois du 7e siècle, je crois, de l'époque Tang, lui-même ne parlant pas le chinois. Et il s'est appuyé sur le travaux d'autres traducteurs, éventuellement la traduction de ces poèmes-là dans d'autres langues. Et il fournit au lecteur des clés pour se faire pratiquement sa traduction en kit. Et voilà, moi, le statut que je confère à ma traduction sur les extraits de Leonard Cohen, c'est ça, c'est-à-dire aller voir l'anglais Et puis, si je peux vous aider, tant mieux. Mais si vous trouvez mieux, tant mieux aussi.
On va écouter l'une de ses chansons, Nevermind, en français, peu importe. Ainsi commence-t-elle, la guerre était perdue, le traité signé, je n'ai pas été pris, j'ai franchi la ligne, je n'ai pas été pris, pourtant beaucoup ont essayé, je vis parmi vous, bien déguisé.
The war was lost, the treaty signed, I was not cut across the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies. I had a name, but never mind.
Never mind.
Never mind, the war was lost, the treaty signed, there's truth that lives, and truth that dies, I don't know which, so never mind.
Nicolas Richard, est-ce que c'est la même langue qu'il utilise pour ses chansons? Parce qu'il y a d'ailleurs un certain nombre de ses poèmes qui ont d'abord été écrits et publiés comme tels et qui sont devenus chansons et qu'on retrouve dans ce recueil. Hein. Ou est-ce qu'il y avait pour vous deux écritures particulières?
En fait, on assiste à un mouvement. Il y a beaucoup de fluidité entre ce qui fige sous forme poétique et ce qui fige sous forme de chanson. Il y a des extraits de rêves aussi qui peuvent éventuellement devenir des chansons. Donc, surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment s'élaborent les chansons. C'est-à-dire qu'à partir de notes dans un carnet, sans doute au milieu de la nuit, on a une première mise au propre, une deuxième mise au propre, et puis peut-être ça devient un poème, et peut-être ce poème peut être à nouveau remodelé, parfois plusieurs décennies plus tard, pour devenir une chanson. Et donc il y a une grande circulation entre les comptes rendus de rêve, les remarques éparses, le poème, le texte chanté. Et je trouve que c'est ça qui est assez réjouissant quand on a le livre sous les yeux, c'est de sentir quelque chose de très vivant.
Il nous manque, hein, Leonard Cohen, quand même, non?
On a sa musique.
On a sa musique et on a ce livre, The Flame, et un film aussi à venir cette année, autour de février 2019, qui raconte sa relation avec Marianne. Retour donc sur ce portrait de l'auteur avec sa muse. Merci beaucoup. On se quitte avec ces mots, à lui.
Now, come into my arms, you are the image of my beauty.